Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à votre émission Parole au présent. Les habitués auront remarqué une fois de plus l'absence de Claude Julien. C'est seulement pour quelques week-ends en avril. Mon nom est Francine Robert, j'enseigne en études bibliques à l'Institut de pastorale des Dominicains. Nous avons convenu, Claude et moi, de vous proposer un commentaire des textes de la première lecture dans la liturgie de ce dimanche et aussi des deux prochains. Ils sont extraits du livre des Actes des Apôtres. C'est un choix qui est fondé sur deux raisons. D'abord, c'est l'année liturgique C, qui normalement utilise l'évangile de Luc. Pour ces trois dimanches, le lectionnaire pige dans les textes de Jean des phrases qui sont un peu hors contexte. Or, le livre des Actes a aussi été écrit par Saint Luc, donc c'est notre manière de rester dans l'esprit de l'année liturgique C. La deuxième raison, c'est que le livre des Actes n'est pas assez connu. Il présente les débuts de l'Église d'une manière intéressante, très stimulante et pertinente pour éclairer l'aventure ecclésiale actuelle. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape du premier voyage missionnaire de Paul et Barnabé. Je vous fais lecture du texte qui est au chapitre 13 du livre des Actes des Apôtres. Paul et Barnabé étaient arrivés à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur firent dire « Frères, si vous avez quelques mots d'exhortation à adresser au peuple, prenez la parole. » Paul alors proclama devant tous la bonne nouvelle de Jésus-Christ. À leur sortie, on pria instamment Paul et Barnabé de reparler du même sujet le sabbat suivant. Quand l'assemblée se sépara, beaucoup de Juifs et de convertis au judaïsme les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester fidèles à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent tant de monde, ils furent remplis de fureur. Ils contredisaient les affirmations de Paul avec des injures. Paul et Barnabé leur déclarèrent alors avec assurance « C'est à vous d'abord qu'il fallait adresser la parole de Dieu, puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien nous nous tournons vers les païens. Car c'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient préparés pour la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs entraînèrent les dames influentes, converties au judaïsme, ainsi que les notables de la ville. Ils provoquèrent des poursuites contre Paul et Barnabé et les chassèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient pleins de joie et d'Esprit Saint. C'est donc une étape du premier voyage missionnaire de Paul et Barnabé. La semaine prochaine, je commenterai un peu plus ces voyages. Le récit d'aujourd'hui met beaucoup l'accent sur le conflit entre les Juifs devenus chrétiens et les autres Juifs. Ça prépare le terrain pour le texte que nous aurons dans deux semaines, acte 15. Et je vais me concentrer aujourd'hui sur ce conflit. Pour comprendre un conflit, ce qui est bien, c'est de connaître un peu les groupes qui sont en présence. Sinon, on se retrouve avec des jugements un peu simplistes du genre « c'est les bons contre les méchants ». Alors, je vous présente ces groupes. Le récit commence à la synagogue le jour du sabbat, donc on est bien enraciné dans le judaïsme. Qui a entendu le premier discours de Paul, ce premier discours qui n'est pas dans le texte que je vous ai lu? Qui a été intéressé au point de le suivre? Qui est venu l'écouter au sabbat suivant? Le récit mentionne au verset 43, « Beaucoup de Juifs et de convertis au judaïsme suivent Paul. Et au sabbat suivant, plusieurs païens viennent l'entendre. On parle aussi de femmes influentes, de notables de la ville. Alors, quelle est l'identité socio-religieuse de ces divers groupes? Bon, on est à Antioche de Pisidie. Il y a deux villes qui s'appellent Antioche. Il y en a une en Syrie, qui est d'ailleurs le lieu de départ du voyage de Paul et Barnabé. Et l'autre, Antioche, où on est aujourd'hui, c'est dans la région de la Pisidie, qui est, disons, le centre-sud de la Turquie actuelle, qu'on appelait à l'époque l'Asie mineure. Ce sont des villes sous influence gréco-romaine. Les Juifs qui sont là sont des Juifs de la diaspora. Ça signifie qu'ils ne vivent ni en Judée ni en Galilée. Ils sont dans des villes autour de la Méditerranée. Il y en a d'autres ailleurs aussi vers l'Est, par exemple en Irak actuel. Les Juifs de la diaspora sont enracinés depuis longtemps dans ces diverses villes. Ils parlent grec. D'ailleurs, le Premier Testament a été traduit en grec pour eux. Ça fait déjà 2 siècles et demi au moment où le récit se passe. Ils sont ouverts à la culture grecque. C'est leur monde. Ils sont tout à fait comme Paul, qui vient de Tarse, qui est une ville pas très loin de là, sur la côte sud-est de la Turquie. Ce sont des Juifs croyants, bien sûr, et ils sont conscients d'appartenir au seul peuple monothéiste du temps. C'est une caractéristique qu'on oublie trop souvent. Dans le judaïsme du premier siècle, cette originalité de la foi juive, elle est d'être monothéiste, vivant parmi une mère de nations polythéistes. Il y a un polythéisme ambiant. Bon, il y a bien quelques philosophes là, qui ont une intuition monothéiste fort intéressante, mais ça n'a rien à voir avec les religions répandues autour du bassin méditerranéen qui sont résolument polythéistes. Par rapport auquel l'affirmation d'un Dieu unique, très haut, transcendant, est très originale, et elle est identitaire aussi. Identitaire surtout parce que dans l'Antiquité, les religions ont une dimension nationale aussi. Elles sont liées au peuple, à la nation. Alors, dans le judaïsme, les autres peuples sont appelés les nations. Ça veut dire les autres peuples, les ethnies, d'où notre mot « ethnique ». Dans le judaïsme, ça désignait les autres peuples qui ne connaissent pas le Dieu unique. Alors souvent, le Nouveau Testament va traduire le mot « peuple » ou « les nations » qui est dans le grec, va le traduire en français par « les païens » lorsque le contexte montre que c'est l'aspect religieux et particulièrement polythéiste des autres peuples qui est important ou significatif dans le récit où ça se trouve. Alors, faut pas lire le mot païen comme si c'était une insulte. En fait, c'est même pas dans le vocabulaire du Nouveau Testament. Mais le mot païen est dans nos traductions et dans notre récit, ça indique que des non-juifs vont devenir chrétiens. D'ailleurs, au moment où Luc écrit le livre des Actes, on est à la fin des années 80, la majorité des chrétiens sont d'origine non-juive. Mais les événements qu'il nous raconte, ceux qu'on lit aujourd'hui, ça se passe à la fin des années 40. Fin des années 40, c'est les premiers chrétiens, ils sont presque exclusivement d'origine juive. Je reviens un peu en arrière sur le monothéisme. Croyez-moi, c'est pas une question de quantité. Il s'agit pas de savoir si on en a un, trois ou cinq ou quinze. L'affirmation qu'il n'y en a qu'un affirme la transcendance absolue, l'altérité totale de Dieu. Ça fait déjà plusieurs siècles qu'on est persuadé de cela dans le judaïsme. Avec le corollaire de cette conviction, c'est-à-dire que le Dieu unique est le Dieu de tous les humains. Israël n'en est pas le propriétaire. Mais, chose étrange, il semble être le seul peuple à connaître ce Dieu unique à cette époque-là. Alors, parmi les Juifs de la diaspora, il y en a qui se considèrent comme les témoins de ce Dieu universel et qui souhaitent le faire connaître aux non-Juifs. Et il y a effectivement des gens, des nations, qui sont attirés par le monothéisme d'Israël et qui se convertissent au judaïsme. Le récit d'aujourd'hui parle deux fois de gens convertis au judaïsme. Les mots grecs qui sont là et que vous trouverez probablement dans votre Nouveau Testament, c'est prosélyte et adorateur de Dieu ou craignant Dieu. Prosélyte, ça veut dire la conversion complète, incluant l'obéissance à toutes les lois de la Torah, qui est la loi de Moïse, incluant aussi la circoncision pour les hommes, bien sûr. Et les adorateurs de Dieu ou les craignants Dieu, ces expressions reflètent la conscience de la transcendance du Dieu unique. Donc, ce sont des gens qui ont la même foi intérieure, pourrait-on dire, mais qui ne s'engagent pas à obéir complètement à toute la Torah, qui ne sont pas circoncis non plus. Évidemment, ce sont des sympathisants du judaïsme, mais parmi ceux-là, il y a, on le sait par d'autres sources historiques, il y a des gens influents dans les sociétés grecques, des notables aussi. D'ailleurs, c'est le cas aussi dans les communautés chrétiennes. Si vous voulez voir un bel exemple là, d'un craignant Dieu ou d'un adorateur de Dieu, vous pouvez aller lire le chapitre 10 du livre des Actes qui raconte l'histoire du centurion Corneille. Alors, les Juifs de Pisidie accueillent ces non-Juifs convertis au judaïsme dans leur synagogue. Hein. On voit bien dans notre récit que même le jour du sabbat, ces gens-là qui ne sont pas d'origine juive semblent être bienvenus dans la synagogue. Donc, on a affaire à un judaïsme très ouvert ici. Il y a un autre signe de l'ouverture de ce judaïsme dans notre récit. Quand je vous l'ai lu, j'ai ajouté un verset qui n'est pas dans le lectionnaire, qui a été coupé. Je vous le relis, c'est le verset 15. « Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur dirent, « Frères, si vous avez quelques mots d'exhortation adressés au peuple, prenez la parole. » Donc, on voit que le leadership de cette synagogue, qui est un leadership juif, est tout à fait ouvert à des prédicateurs de passage. Ils connaissent pas vraiment Paul ni Barnabé. Nous aurons un très long discours de Paul. Je comprends que le lectionnaire l'ait coupé, des versets 16 à 42, que j'ai résumé en quelque chose comme Paul leur annonça la bonne nouvelle de Jésus Messie ou Christ. Mais ça vaut la peine que vous le lisiez, hein, je vous le signale, les versets donc 16 à 42 du chapitre 13. Alors, je vous ai ajouté aussi la suite, c'est-à-dire le verset 42. À leur sortie, on pria instamment Paul et Barnabé de reparler du même sujet le sabbat suivant. C'est un peu dommage que ces deux versets-là aient été coupés, parce que ça présente assez positivement les responsables juifs de la synagogue. D'une part, ils ont invité Paul et Barnabé à prendre la parole. D'autre part, après les avoir entendus, ils les ont réinvités pour la semaine suivante pour reparler de la même chose. Donc, il y a là une ouverture très claire que la coupure du lectionnaire fait disparaître complètement, de sorte que finalement, on a les bons et les méchants. Ça crée une perception un peu trop simplificatrice. Je trouve qu'on peut se laisser interpeller par cette ouverture à la mixité dans les modalités d'appartenance des gens du judaïsme par naissance et d'autres qui viennent de d'autres nations, qui sont convertis. Parmi ceux-ci, des pratiquants complets et d'autres qui sont des pratiquants partiels, mais des croyants de cœur. Cette ouverture aussi à des prédicateurs itinérants dont on n'a peut-être pas vérifié de quoi ils allaient parler ou est-ce que leur doctrine était correcte. Il y a là une ouverture pour nous autres, je trouve, surtout dans la diversité des modalités d'appartenance à une même foi et à une même communauté croyante. On est tout à fait dans cette situation-là maintenant. Chez les chrétiens et chez les catholiques aussi, c'est-à-dire qu'on côtoie des gens qui partagent la même foi, mais qui appartiennent à l'Église très différemment, qui pratiquent aussi très différemment, et ça fait partie de la nouvelle donne, je pense, de la communauté chrétienne. Bon, retour au récit. Alors, le verset 42, qui est à couper du lectionnaire, je vous le rappelle, à la sortie de la synagogue, on demande à Paul et Barnabé de parler du même sujet la semaine suivante. Alors, ça nous apprend quelque chose d'important. Ça veut dire que quand Paul proclame Jésus mort, ressuscité comme étant le Messie promis dans les Écritures, ça ne soulève pas la colère des Juifs de Pisidie. Personne n'a interrompu Paul et Barnabé, personne ne les a jetés dehors, Au contraire, on veut en entendre encore là-dessus. Et le récit précise que plusieurs Juifs le suivent pour en entendre davantage. Donc, ça veut dire que le problème pour les Juifs qui sont là, ça n'est pas, contrairement à ce qu'on est porté à penser, la proclamation de Jésus comme Messie. C'est intéressant parce que au moment où Luc écrit son livre, vers la fin des années 80, c'est très précisément cela qui marque la frontière entre les Juifs et les chrétiens. C'est la foi en Jésus comme mort ressuscité et Messie envoyé par Dieu. La rupture, elle est officielle entre le judaïsme et le christianisme au moment où Luc écrit, mais pas au temps de Paul. C'est intéressant de voir que Luc est capable de faire abstraction de sa propre situation de la fin des années 80 lorsqu'il raconte des événements de la fin des années 40. Alors, si dans notre récit, le problème, c'est pas de proclamer Jésus-Messie, ça va être quoi la source du conflit? Donc, la semaine suivante, quand Paul et Barnabé reviennent au rendez-vous le jour du sabbat à la synagogue, le conflit éclate. On relit le verset 44 qui, je trouve, est éclairant. Presque toute la ville s'était rassemblée pour écouter la parole du Seigneur. À la vue de cette foule, les Juifs furent pris de fureur. Donc, c'est en voyant l'impact du discours de Paul et l'immense intérêt que ça suscite chez plein de gens. Bon, toute la ville, c'est peut-être une figure de style, là. Mais en tout cas, ça suppose plein de gens qui ne sont pas impliqués dans le judaïsme, qui ne font pas partie de ceux que je vous présentais un peu plus tôt comme étant des non-juifs convertis, prosélytes ou craignant Dieu. Il y a un peu n'importe qui là-dedans. Bon, première lecture un peu cheap, si vous me permettez. On peut penser qu'ils sont juste jaloux du succès de la prédication chrétienne. Mais en fait, le mot qui est traduit ici par « fureur », c'est le mot « zélé »,« zélos ». C'est comme s'ils étaient pris d'un zèle religieux intense. D'ailleurs, dans le Premier Testament, ce mot-là est traduit par « rempli d'un zèle jaloux pour Dieu ». Donc, ce qui paraît intolérable, semble-t-il, aux Juifs de ce récit, c'est la diffusion extrêmement large de la parole de Dieu à n'importe qui. Bon, j'ai essayé auparavant de bien établir l'ouverture de cette communauté juive d'Antioche de Pisidie. Et c'est ici qu'on rencontre la limite de cette ouverture. On n'est pas propriétaire du Dieu unique, c'est vrai, mais il ne s'agit pas non plus de lancer l'annonce du Dieu unique à temps et à contre-temps, à tout le monde puis à n'importe qui. Un peu comme si on se mettait à proposer le salut à n'importe qui le vendredi soir au centre d'achat. Ça me rappelle un peu la réserve de Matthieu dans son évangile où on lit « Faut pas jeter les perles aux pourceaux ». On fait pas n'importe quoi avec la bonne nouvelle puis on la propose pas à n'importe qui sans condition. Dans notre récit, on dirait que la proclamation du salut en Jésus-Christ par Paul et Barnabé a fait tomber les frontières d'une manière un peu trop radicale pour les gens qui sont là, et particulièrement, il s'agit des frontières de l'accueil. Mais il y a une sorte de mouvement irrésistible de la bonne nouvelle, comme si elle se répandait par elle-même. Ce mouvement, on le trouve partout dans le livre des Actes des Apôtres, et ça fonctionne tellement que c'est après avoir mentionné que la parole du Seigneur se répandait dans toute la région que le récit précise que les Juifs vont demander à des gens influents convertis au judaïsme, qui sont donc des notables et des femmes, de faire chasser Paul et Barnabé de leur territoire. Ce problème qui est créé par une sorte de proclamation trop ouverte de manière inconditionnelle, ça va être l'objet du débat qui est présenté au chapitre 15 à l'Assemblée de Jérusalem, qu'on appelle parfois le premier concile de l'Église, et c'est dans deux semaines que nous aurons ce récit. Ça aussi, je trouve, ça pourrait nous donner à penser, je vais pas le développer parce qu'on n'a pas le temps, mais il est bien possible que des frontières qui tombent trop facilement au goût de certains pour déterminer qui est dans la communauté, qui n'y est pas, qui peut y entrer et qui va rester à la porte. Enfin, on a aussi ce problème-là, nous, je pense, en Église aujourd'hui. J'aimerais signaler en passant que cette espèce de schéma narratif en deux temps, avec le premier temps d'accueil même enthousiaste et ensuite de rejet avec colère, c'est exactement le même schéma qu'on trouve chez Luc, qui est, je vous le rappelle, l'auteur du livre des Actes, dans son évangile au chapitre 4, lors de la toute première prédication de Jésus à Nazareth, on a exactement la même chose. D'abord enthousiasme, et ensuite, lorsque les gens comprennent que Jésus n'est pas là exclusivement pour eux et qu'il est ouvert un peu à tout le monde qui veut l'entendre, réaction, colère, rejet. Ça veut dire que c'est une clé de lecture importante pour Luc et il la propose comme matière à réflexion pour les chrétiens, je dirais. Alors, comment Paul va-t-il réagir à ce refus, à ce rejet à Antioche de Pisidie? D'abord, il rappelle la priorité d'Israël dans la proclamation du salut. Hein. C'est à vous d'abord que doit être adressée la parole de Dieu. Et cette priorité, jamais dans le livre des Actes, Paul n'y renoncera. On le voit aller de ville en ville. À chaque fois, il va commencer par enseigner dans les synagogues. Dans sa réponse à Antioche de Pisidie, il cite aussi un passage d'Isaïe au chapitre 49, verset 6, qui indique clairement que dans son esprit, la bonne nouvelle, elle s'adresse à tous, hein, à porter le salut aux extrémités de la terre, donc elle est pour toutes les nations. Mais pour Luc, ça annule pas la priorité d'Israël. C'est une tension qui reste très présente dans le livre des Actes et certainement dans l'esprit de Luc. Cette tension entre l'alliance indéfectible que Dieu a conclue avec Israël d'une part et le refus de la grande majorité du peuple juif de reconnaître en Jésus le Messie promis. On voit partout dans le livre des Actes l'importance de l'enracinement de la foi chrétienne dans la foi juive et dans les Écritures. Donc, dans ce que nous, on appelle le Premier Testament, le discours de Paul à Antioche de Pisidie en est un très bon exemple d'ailleurs. Pour Luc, c'est même tellement important cet enracinement de la foi chrétienne dans la foi juive que même dans ses récits d'apparition aux deux disciples d'Emmaüs et au groupe élargi à Jérusalem, chaque fois, le ressuscité fait des liens avec les Écritures, c'est-à-dire avec le Premier Testament. Ça doit nous donner à penser, puisque Luc est un grec, et il pourrait être porté à considérer, comme plusieurs chrétiens d'aujourd'hui, que ce qu'on appelle l'Ancien Testament, c'est mort et enterré. Pas du tout. Dans le livre des Actes, comme dans l'Évangile de Luc, ça reste fondamental. Ça veut dire que cette tension entre la fidélité de Dieu qui reste à Israël et l'ouverture en même temps à toutes les nations, ça suppose une certaine conception du peuple de Dieu dans ce livre des Actes. Ça montre que, selon Luc, les gens des autres nations qui sont devenus chrétiens ne remplacent pas Israël. Ils agrandissent le peuple de Dieu aux dimensions du monde, on pourrait dire. Ça donne à penser, je trouve, sur les frontières qu'on pourrait avoir tendance à resserrer un peu. C'était assez normal, ce réflexe des Juifs du premier siècle. C'est un réflexe naturel des groupes religieux minoritaires dans leur milieu, donc qui se sentent menacés dans leur identité. Ça rend un peu frileux. Mais cette situation de minorité, elle est devenue aujourd'hui en Occident celle des chrétiens. Et donc, ce réflexe naturel de resserrer les frontières, on doit peut-être y réfléchir et rester vigilant là-dessus. On verra dans deux semaines avec Acte 15 que le problème des frontières trop étroites s'est posé très tôt à l'intérieur même de l'Église. Voilà donc pour Acte 13. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. C'est Francine Robert au microphone. Merci, madame, monsieur, d'avoir passé cette demi-heure en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour Acte 14 et les voyages de Saint Paul, et dans deux semaines pour Acte 15. Merci à Nathalie Jarreau pour son soutien technique, et je vous souhaite Une excellente fin de semaine sur les ondes de Radio Ville-Marie.